de m'avoir invité à participer à cette discussion aux côtés de ces autres intervenantes hautement intéressantes. Avant de poursuivre, j'aimerais le dire. Je parle ici sur un territoire des Premières Nations, Tsleil-Waututh, Squamish et d'autres peuples autochtones. En tant que descendante de ces Premières Nations, je remercie les peuples Coast Salish qui ont préservé ces terres. Gratitude qui entraîne une responsabilité, à savoir être témoin des incidences du colonialisme et à s'engager à mettre en œuvre des pratiques de décolonisation. Reconnaissance qui n'est pas uniquement une manière de bien commencer mon discours. En réalité, je veux vraiment dire cela pour donner le ton par rapport à ce que j'ai à dire sur les exigences vaccinales. Au Canada, ainsi que dans d'autres endroits dans le monde, les gouvernements mettent en place des politiques afin qui visent à exiger plus de vaccinations et à motiver des personnes à se va faire vacciner. Au Canada, il y a toute une série d'exigences liées à la vaccination. Les personnes qui prennent soin d'autres doivent être vaccinées dans des centres, dans des restaurants. Il y a aussi des exigences, le fait que les personnes dans des restaurants doivent avoir les deux vaccins, les deux doses. J'aimerais me référer à toutes ces politiques comme étant des politiques vaccinales pour plus de facilité dans mon discours. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des incidences ou des implications des droits de l'homme de ces différentes politiques vaccinales. Comment les équilibrer grâce à ces orientations que l'on a soumises au gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi qu'à d'autres décideurs. Toute une série de perspectives sur les politiques vaccinales sont à prendre en compte. On l'a noté à l'aune de la 76e session de l'Assemblée générale à New York. Ce qui a été proposé a été justifié d'un point de vue des droits de l'homme pour plus de protection de ceux qui sont les plus vulnérables face au virus, ceux qui pourraient être plus vulnérables par rapport au virus et pourraient en décéder ceux qui ont des conditions sous-jacentes, des maladies sous-jacentes. L'idée ici est d'équilibrer d'une part le droit des libertés individuelles et le droit de promouvoir les droits du collectif, droits individuels qui ont été exprimés par toute une série de Canadiens qui étaient inquiets et qui nous ont appelés. Ils faisaient appel à ce que l'on respecte le droit de respecter leur corps et ce qui est également protégé dans le cadre de différents accords et de notre constitution. Mais il est important de le dire aussi, protéger le collectif, protéger les communautés grâce aux vaccins permet aussi de protéger les individus. Il y a donc six principes qui doivent être appliqués dans le cadre de ces politiques.
En recherchant cet équilibre entre les besoins collectifs et individuels. Alors, tout d'abord, l'égalité d'accès. Si l'on veut un vaccin pour accéder aux services, au logement, à l'emploi, il faut forcément assurer un accès équitable au vaccin pour tous, ce qui signifie qu'il faut non seulement fournir des cliniques vaccinales multilingues faciles d'accès et gratuites, mais aussi s'assurer qu'il y a une éducation culturellement appropriée et générale pour aider ceux qui ne s'y connaissent pas, pour les renseigner. Par exemple, au Canada, nous avons tenu compte de notre histoire de colonisation, où le gouvernement a procédé à des expériences médicales sur les enfants autochtones dans les pensionnats, ce qui a forcément conduit à une plus grande réticence vis-à-vis des vaccins parmi les autochtones. Une approche axée sur les droits pour mettre en œuvre cette obligation de se vacciner exige de saisir toutes les opportunités pour identifier, éliminer les barrières systémiques à la vaccination qui se traduisent par un taux de vaccination plus faible parmi les groupes marginalisés. En examinant la question de l'accès dans la pandémie, naturellement, il faut aussi réfléchir au collectif au-delà des frontières nationales, faire des efforts pour parvenir à un accès mondial. Et je suis d'accord pour considérer que personne n'est à l'abri tant que tout le monde n'est pas en sécurité, comme l'avait dit le président lors de la réunion de haut niveau, un vaccin pour tous en avril dernier. Deuxième principe, il faut s'appliquer à s'assurer que les politiques sont fondées sur des preuves dans le sens des recommandations de santé publique à jour, avec évidemment une maîtrise épidémiologique et médicale des risques spécifiques que la politique vise à aborder. Ces politiques doivent être aussi limitées dans le temps, proportionnelles et nécessaires. Les politiques portant sur la vaccination doivent être proportionnelles à la santé et à la sécurité en termes de risque pour parvenir à un résultat qu'aucune autre mesure moins intrusive obtiendrait. Enfin, l'état de la vaccination est une question extrêmement sensible en termes d'information personnelle de santé et toute collecte de cette information doit bien évidemment respecter les droits à la sphère privée dans toute la mesure du possible. Alors que les politiques vaccinales ont été lancées en Colombie-Britannique, j'ai eu l'opportunité de conseiller un responsable de la santé publique sur ces principes. J'ai soulevé la question. Si on ne prévoit pas des exemptions à ceux qui sont incapables d'être vaccinés, par exemple, du fait d'une réaction allergique, équivaudrait à violer les droits de l'homme. Cette analyse s'applique, que ce soit une politique pour un profit tel que le restaurant ou un repas, ou d'autres tels que l'emploi. Donc, il faut bien sûr réfléchir. Toutefois, je voulais souligner, une dérogation ou un processus d'ajustement ne peut s'appliquer que dans des circonstances limitées où les caractéristiques personnelles, telles que par exemple le handicap, sont en question. À mon avis, une personne qui choisit de ne pas être vaccinée à titre de préférence personnelle n'est absolument pas fondée pour se plaindre de violation des droits de l'homme par rapport à cette demande de vaccin. En outre, outre ces barrières pour ceux qui ont besoin d'un vaccin, il faut tenir compte du fait que tous les individus vaccinés peuvent accéder à la preuve de leur statut de vacciné, notamment ceux qui n'ont pas des services Internet ou d'identification photo. La conception même du processus permettant de vérifier si l'on est vacciné peut pousser à d'autres inégalités et c'est ces problèmes-là qui doivent être abordés dès le début de la mise en place de cette politique. Donc j'ai parlé de certains impacts en rapport avec l'équité concernant les vaccins exigés, mais il est bien évident à mon avis que cette obligation du vaccin doit quand même protéger les plus marginalisés d'entre eux. Par conséquent, la liberté de choix de ne pas se vacciner ne l'emporte pas sur les protections majeures en termes de droits humains qu'offre le vaccin. Défendre les droits individuels tout en agissant de façon collective pour se protéger les uns les autres est difficile tout au long de la pandémie. Il faut maintenir cet équilibre minutieux entre les droits de ceux qui n'ont pas reçu le vaccin COVID-19 du fait d'un handicap ou d'un autre problème ou les droits individuels et collectifs à la santé et à la sécurité. Mais aussi, il faut être bien conscient que cette tension entre les droits collectifs et individuels n'est pas une dichotomie absolue. Lorsqu'on parle de la santé de nos communautés, souvent, on parle de la santé de ceux qui sont les plus marginalisés ou les plus vulnérables au plan médical. Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte d'être ici aujourd'hui.